franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils ont 5 ans.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barre, ça a un caboué.
En amour.
Tu préfères les bagnoles?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bienvenue dans CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement. Et même à 24 décembre, on va essayer de prendre le temps de ne pas aller trop vite. Surtout le 24 décembre, une émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond. En tout cas, qui essaie modestement. Avec à la technique aujourd'hui, Nicolas Slimani et Michel Thomas. Et assisté de Stéphane Combes, c'est Fabrice Laigle qui réalise cette émission. Alors, pendant que vous trucidez la dinde avec élégance ou que vous ouvrez les dernières huîtres hors de prix au cutter, avez-vous réfléchi aux bonnes questions que seul un écologiste casse-pied dès son plus jeune âge peut se poser ? Les rois mages sont-ils réellement venus à pied rencontrer le petit Jésus ? N'ont-ils pas plutôt affrété un jet privé friand de kérosène et terminé à dos de chameau les 10 derniers kilomètres ? Marie utilisait-elle des couches culottes lavables ? L'or, la myrrhe sont-ils des produits bien écologiques? Alors, je le rappelle, la myrrhe sert à embaumer les morts, ce n'est pas une marque de lessive, pas du tout. Pour l'encens, en tout cas, on en est sûr, c'est un excellent désinfectant, toujours en odeur de sainteté. Et alors aussi, quel est le bilan carbone de l'âne et du bœuf? Et les rejets de méthane de ces ruminants ont-ils été bien évalués? Votre crèche est-elle en bois certifié? La paille est-elle locale? Des santons made in China ne se sont-ils pas glissés au milieu des santons provençaux? Les 13 desserts provençaux ont-ils fait 5000 km avant d'arriver sur votre table? Et la dinde? Et la dinde dont je parlais a-t-elle été élevée sous la mer et nourrie au grain sans OGM? Plumée avec amour par des amis des bêtes? A-t-elle eu le temps de connaître le dindon, si, avant d'être farcie d'un pâté végétal issu du commerce équitable? Ah. Bon, allez, vraiment, je vous approuve. Un écolo à la maison le soir de Noël, ça vous gâche une fête. Mais oui, mais assez, faisons litière de tout cela. Litière bio estampillée WWF, bien sûr. L'essentiel, c'est que dans la hotte en osier véritable, tous les pères et toutes les mères Noël puisent un boisseau d'amour sans additifs à offrir aux enfants de la terre. Qu'il y ait assez d'ours des Pyrénées en pain d'épices et d'étincelles dans leurs yeux pour apprendre à partager. Ne me dites pas que je suis naïf, je le sais, c'est Noël, on peut tout se permettre. C'est le retour vers la lumière, le solstice d'hiver est derrière nous. Et ce serait bien qu'après cette descente aux enfers de la cupidité permanente, l'être humain remonte aussi vers sa lumière. Alors je voudrais dédier cette émission à deux amis qui me sont très chers, Jean-Christophe Epinaza et Daniel Christou, que je salue très fort. Et au menu de cette émission, eh bien, il y aura Jean-Marie Pelt avec un petit sujet, on va dire que ça sent le sapin et que ça sent l'if, c'est normal, ce sont deux arbres de Noël. Et puis cette voix.
Beaucoup de gens disent, qu'est-ce qui a fait l'œuf? C'est la poule ou est-ce que c'est le poule qui a fait l'œuf? La réponse, c'est l'œuf qui a fait la poule. Parce que toutes les formes premières, élémentaires, du début de la création, ressemblent plus à des œufs qu'à des poules.
Alors, tout ne sera pas du même tonneau avec Hugo Frey. Hein, mais c'est un homme qui est tout à fait intéressant parce qu'il s'intéresse aux sciences, à l'histoire et aussi à la nature. Donc, balade avec lui, donc avec Hugo Frey, ce sera vraiment le thème, on va dire, principal. Et puis, je n'oublierai pas non plus à la fin Cœur de nature en France, vraiment une édition très très belle de Terre sauvage. Nous en parlerons avec Jean-Jacques Fresco. Nous avons de la musique pour commencer. Bah, bien sûr, allez, Jean-Baptiste Audibert nous a choisi qui? Ah bah, vous le connaissez, hop.
Quand il est arrivé avec sa guitare à la main, chacun d'entre nous voulait devenir son copain. On ignorait tout de lui, mais il y avait écrit sur le bois de sa guitare, Memphis, Tennessee. Sans chercher plus loin, c'est comme ça qu'on l'a surnommé. Par toute la bande, alors il fut tout de suite adopté. Quand parfois l'un d'entre nous avait quelques ennuis, ensemble on allait le dire à Memphis, Tennessee. À
Alors il chantait doucement en fermant les yeux. Plus rien ne comptait, on ne pouvait pas être mieux. Quand je joue sur ma guitare les airs qu'il m'a appris, un écho dans ma mémoire dit Memphis, Tennessee. Mais de temps en temps ses yeux bleus semblaient se figer. Alors il chantait sans fin d'étranges mélopées. Toujours un mot revenait, c'était Mississippi. On comprenait qu'on perdrait Memphis, Tennessee. Quand il est parti tous, on a cru perdre un ami. Et souvent le soir, tous ensemble, on parle de lui. Et même si l'on croit voir des larmes aux yeux des filles, on ne peut pas en vouloir à Memphis, Tennessee. On ne peut pas en vouloir à Memphis, Tennessee.
Ah oui, c'est pas la plus connue de Souchon, mais ça encadre, vous verrez bien donc le climat de Hugo Frey qu'on va retrouver d'ici une dizaine de minutes. C'était donc Memphis, Tennessee. Sur France Inter, CO2 mon amour. Il est arrivé un petit peu vite, mais c'est pas grave du tout. Allez, bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Alors Jean-Marie, vous avez décoré votre sapin et vous avez décoré votre if. Parlons de ces deux arbres de saison, s'il vous plaît.
Mais on va d'abord parler de Noël quand même.
Bah, je vous en prie.
Alors il faut expliquer à nos chers auditeurs qu'on fête Noël depuis l'an 335.
Oui.
J'ai cherché dans les archives, donc c'est quand même une vieille histoire, au moment où c'est le solstice d'hiver. Et où le soleil commence, mais très, 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 très lentement à remonter dans le ciel. Mmh. Et en réalité, c'est une grande fête chez les Romains qui s'appelle le Sol Invictus, le soleil invaincu, puisqu'il était mort deux jours avant, il ne cessait de baisser toujours plus, et voilà donc qu'il repart. Alors, cette date n'est pas tout à fait précise, parce qu'en réalité, le solstice, c'est...
21 décembre, non ?
Oui, tout à fait, le 21, le 22, et Noël, c'est le 24-25. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent, ouais, ils ne savaient pas exactement le jour du solstice, parce qu'en réalité, pour ces jours-là, la longueur des jours et des nuits ne change pratiquement plus du tout, ou à peu près plus du tout. D'autres disent non, ils l'ont mis juste un petit peu après pour qu'on voit bien que le soleil est sur le point de démarrer.
Voilà. Et donc il fallait un arbre de lumière pour parler de cela.
Il fallait un arbre de lumière. En réalité, il y avait un autre arbre qui était celui qui symbolisait la mort du soleil. Alors la mort du soleil, chez les Celtes, c'était le 23 décembre. C'était le 23 décembre parce que les Celtes avaient un calendrier lunaire. C'était 13 mois de 28 jours. Ce qui fait 364 jours. Alors, manque de bol, il manque un jour.
Oui.
Ben, c'était le dernier de la série, c'était le 23 décembre. Et ça, c'était le jour de la mort.
Du soleil.
Et alors, la mort du soleil, naturellement. On a dédié ce jour à un arbre qui est l'if. Parce que pour chaque mois, il y avait un arbre symbolique du mois. Pour ce seul jour du 23 décembre, il y avait un arbre qui était l'if et dont on savait qu'il était extrêmement toxique et qu'il était par conséquent porteur de mort. Donc, comme le soleil mourait ce jour-là, on a pris l'arbre qui est symbole de mort. Mais vous savez bien que dans les grands symboles, il y a toujours une double acceptation.
Et oui.
Alors l'if y tue, bon, ça c'est évident, les antiques, les Romains avaient très peur des flèches des Gaulois parce qu'elles étaient enduites d'if.
Mais il guérit aussi l'if.
Voilà, alors on sait depuis peu qu'il a donné un grand médicament du cancer et que par conséquent, il est aussi un arbre de vie. Et on le considérait comme un arbre de vie parce qu'on le plantait abondamment dans les cimetières. Dans la mesure où, premièrement, il vit très 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 longtemps et deuxièmement, il garde naturellement ses aiguilles toute l'année. Elles ne tombent pas comme les feuilles des arbres à feuilles caduques.
Alors, donc, il est intéressant parce que c'est à la fois un conifère qui est sans cône et c'est aussi un résineux qui est sans résine. Hein, donc il a un statut un peu équivoque, hein, celui-là.
C'est bien, Denis, vous avez bien travaillé.
Et alors
oui, il a bien travaillé, mon Denis. Il a bien travaillé. C'est tout à fait ça. Alors, non seulement il n'y a pas de cône, mais les arbres femelles, parce qu'il y a monsieur et madame dans cette espèce, qui sont séparés, les arbres femelles font des graines qui s'entourent d'un organe pulpeux et charnu, tout rouge, qui s'appelle la rille. De sorte qu'à l'époque de Noël, où toutes ces petites zaries rouges sont sur l'if, eh bien l'if, il ressemble à un arbre de Noël, qu'on n'aurait pas décoré, que la nature aurait fabriqué un peu tout seul.
Alors Jean-Marie, donc un arbre, on va dire, à la fois toxique, mais pas pour lui, parce que aussi doté d'une incroyable longévité, hein, des ifs qui ont 1000 ans, ça on en connaît.
Plus, même jusqu'à 2000.
Grâce à nos amis celtes. Maintenant passons au sapin, qui en fait est un épicéa.
Oui, alors le sapin, c'est l'arbre qui va être choisi par les Celtes pour le premier mois de l'année. Et alors, cet arbre, ce n'est pas un sapin, c'est un épicéa. Alors, on va me dire, mais quelle est donc la différence entre un sapin et un épicéa? Elle est très importante. D'abord, dans le sapin, les pommes sont dressées. Et dans l'épicéa, les pommes sont pendantes. C'est la première différence. Deuxième différence, dans l'épicéa, les aiguilles sont pointues. Et dans le sapin, elles sont un petit peu aplaties. Troisième différence, dans le sapin, les aiguilles sont toutes dans le même plan, tandis que dans l'épicéa, elles tournent autour du petit rameau qui les porte. Donc ce sont des arbres qui sont assez différents, mais seulement quand on regarde bien, parce que leur port, leur stature, elle est très ressemblante. Et en réalité, nos sapins de Noël sont pratiquement toujours des épicéas. Et on devrait dire donc l'épicéa de Noël. Mais bon, on pourrait plus chanter non. Mon beau sapin. vous voyez, chanter mon bel épicéa.
Non, ça marche pas. Alors pourquoi il devient en fait, pourquoi on le décore, on lui met de la lumière justement pour fêter?
Parce que c'est l'obscurité. La tradition nous vient des pays scandinaves où la nuit est très très longue, puisqu'à cette période il fait jour 3 ou 4 heures, déjà au centre de la Suède. Alors il faut de la lumière, et on va donc décorer des épicéas en y mettant des bougies. Mmh. Et c'est la fête de la lumière.
Donc nos amis suédois prennent à la fois du millepertuis, ce qui leur fait le plus grand bien pour lutter contre les dépressions saisonnières, comme en Allemagne aussi.
Oui.
Et ils allument leur sapin, ce qui leur envoie une autre forme de lumière.
Tout à fait, et la tradition passe ensuite en Allemagne, et la tradition passe de l'Allemagne en Alsace-Lorraine, quand l'Alsace-Lorraine est annexée en 1870.
Vous n'étiez pas né, hein?
Non, mon grand-père, si. Voilà. Et à ce moment-là, les Alsaciens-Lorrains, qui sont entêtés et qui veulent rester français, vous savez bien que nous sommes plus français que les Français, voilà. Eh bien, on fait passer la tradition dans le reste de notre pays. Et c'est comme ça que le sapin de Noël s'est imposé. Mais il y a quoi? Il y a 150 ans, c'est même pas, c'est récent. Au Moyen-Âge, on ne faisait pas de sapin de Noël. Et puis ensuite, le sapin de Noël est apparu dans les rues des villes et sur les places des villes. Et la première fois qu'on a mis un très très grand sapin sur une place d'une ville, ça s'est passé en 1912 à Boston. Et à partir de la Deuxième Guerre mondiale, toutes les villes ont commencé à mettre des sapins partout, à s'illuminer partout. Mais ça aussi, c'est très récent tout ça.
Jean-Marie, je cite l'Association française du sapin de Noël naturel. Ce sont donc des éleveurs de sapins qui se trouvent principalement donc dans le Morvan, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc ça, c'est du bon petit sapin made in France. Et puis Jean-Marie, on se retrouve nous la semaine prochaine. Je vous souhaite un très bon Noël. Vous avez des il est décoré votre sapin?
Oui, j'ai loupé.
Vous avez loupé la décoration du sapin?
Oui, c'est... quand vous viendrez.
C'est incroyable.
Vous verrez, il est loupé, on va le rafistoler demain.
Bon, je vais venir.
Mais on va offrir la fête de Noël aux enfants,
oui.
Parce que c'est la fête des enfants. Noël, c'était la naissance du petit Jésus. Alors, il ne faut pas jeter ni le petit Jésus, ni les enfants avec l'eau du bain.
Voilà.
Ni les bébés avec l'eau du bain.
Eh bien, c'est bien noté. Merci
c'est
à vous.
C'est la fête des enfants.
Merci Jean-Marie.
Merci
à
Denis, merci.
Prochaine.
À la semaine prochaine.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Sky's only blue for all my life.
how they toss the dice. It had to be the only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be the only one for me is you, and you for me, so happy together. It had to be the only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy.
Ben c'était les tortues sur France Inter. Ben oui, happy together, ensemble, ensemble, c'est un joli mot. On l'a bien piétiné, mais vous verrez, un jour ça va revenir. Ah, allez, c'est parti avec cet homme que vous connaissez. Là, il y a un jeune arbre. Vous avez rapporté l'Ardèche.
Oui, oui, je l'ai planté tout petit. C'est un, je ne connais que lui, mais le nom me reviendra tout à l'heure.
Et il a voulu venir chez vous, en fait.
Ben, non, je l'ai planté ici, mais pourtant, il est quand même assez loin des grands arbres. Mais, et il se développe, il va chercher la lumière.
Et oui. Hein.
Alors, tout à l'heure, on parlait du grand cercle.
Oui.
Cercle de la vie. Moi, j'ai une théorie. Et je dis, la nature tend à la symétrie. Sans toutefois y parvenir. Mmh. C'est-à-dire que la nature, elle cherche la symétrie. Si un arbre pousse en plein champ, il est parfaitement symétrique. Quand je dis parfaitement, pas parfaitement, mais vous avez globalement tout le feuillage, après il y a le tronc, et puis après il y a les racines. Oui. Vous comprenez ce que
d'accord,
je veux dire
d'accord.
Nous sommes, vous êtes symétrique, je suis symétrique. La
Terre sûrement symétrique. Imparfaitement, mais peu importe.
Imparfaitement, oui, c'est ce que je dis. La nature
oui.
tend.
Oui.
Et je pense que... si on se projette dans quelque chose qui est absolument impensable pour n'importe pour la majorité des gens, si on imagine la forme de l'univers, c'est une symétrie.
Quand j'ai dit aux gens autour de moi et à mes collègues de France Inter que nous avions pour ce 24 décembre Hugo Frey, je peux vous dire que c'était une explosion de sourires. Tout simplement parce que cet homme, Hugo Frey, est attachant et qui fait partie de la famille, on va dire, depuis, allez, trois générations. Alors, Hugo Frey, c'est un peu comme un doudou, quoi. Hein. C'est une chanson, une image, un souvenir, c'est rassurant. Il y a parfois des odeurs de feu de camp, mais ça dépasse largement cela. Et en tout cas, on est bien avec lui. C'est un homme, en fait, qui parle à tout le monde. Alors, la machine à remonter le temps fonctionne à plein. Mais cet homme, attention, ne cultive pas du tout la nostalgie. Cultive pas du tout les regrets. Il avance véritablement dans le présent. Ce qui fait qu'il continue de chanter sans forcément faire les tournées achetant des têtes de bois. Il cultive son jardin dylanesque et aura quand même, excusez du peu, 83 ans aux prochaines premières jonquilles. Rencontre avec cet homme qui a des origines du sud-ouest, hein, du côté de sa mère, hein, descendant quand même de Gaston Phébus, Gaston de Foix, qui était un grand batailleur et, faut le dire, inventeur du chien de berger des Pyrénées. Ce serait une autre histoire. Hugo Frey, il aime les sciences, je vous le disais, l'histoire, les chevaux et la nature. Et alors c'était en région parisienne, dans son jardin, à l'Orée du Bois, que j'ai tourné ce sujet. C'était une période la plus chaude, hein, parce que les Martinets étaient en pleine activité. Et c'est donc avec plaisir qu'avec Fabrice Lègle, mon réalisateur, nous vous offrons cette pastille de chaleur humaine qui va commencer dans le Tarn, à Sorèze, parce que c'est là qu'Hugo Frey va développer son goût pour la nature et les animaux.
Alors d'abord, on a découvert Sorèze, c'est ma maman qui nous a emmenés là pendant la guerre, parce qu'elle cherchait un endroit où elle pouvait mettre ses trois fils en pension, parce qu'en 40, on avait fui, on était de côté dans le Lot-et-Garonne, et chez mes grands-parents, un petit village du Lot-et-Garonne, où il n'y avait pas d'école, il n'y avait rien. Donc c'est par un écrivain, un ami de ma mère, qui a dit « il y a l'école de Sorèze ». Alors Sorèze, c'est une école extraordinaire, dans un village extraordinaire. Et c'est une chance fantastique d'avoir vécu là, parce que l'école de Sorèze, on était en plein XVIIe siècle. Il n'y avait pas de chauffage dans les classes. J'avais un uniforme un peu semi-militaire. Il n'y avait pas de chauffage dans nos chambres. Il y avait des rigoles qui coulaient dans les rues nuit et jour, qui chantaient dans les rues. Et puis, il y avait ces maisons à colombage, un petit peu médiévales. Et donc, moi, du Tarn, je connais surtout Sorèze, parce qu'en fait...
Vous sortiez peu, c'est-à-dire que...
Pendant la guerre, je ne sortais pas. Il n'y a que mes frères qui ont pu aller, parce qu'ils étaient plus âgés que moi, jusqu'à Toulouse pour écouter le père de Claude Nougaro, qui chantait la bohème, au Capitole de Toulouse. Mais à l'époque, il y avait un petit train qui allait de Toulouse à Revel.
Oui. Qui était freiné par le vent d'autant quand il se mettait.
Alors, évidemment, quand il y avait les côtes, on pouvait descendre du train et marcher à côté. Voilà. Quoi. Alors, le vent d'autant, c'est quelque chose de formidable parce que déjà, le mot. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du vent d'autant, c'était à Sorèze. Et autant, on emporte le vent. Quoi.
Oui.
Et la deuxième chose qui m'a fasciné à Sorèze, c'est le mot sort. Sort. S-O-R. D'où vient le mot Sorèze? Un petit cours d'eau. Et alors là, c'est là que j'ai découvert tout un monde que je ne connaissais pas, c'est les chevaux. J'arrive, j'ai un peu plus de 10 ans, et à l'école, il y avait une tradition équestre. Il y avait donc un manège, il y avait donc des écuries, et quand la première fois, ma mère nous a conduits pour nous présenter au maître écuyer, quand je suis rentré dans l'écurie, l'odeur du fumier, de la paille, du fourrage, le crottin de cheval, l'urine du cheval. Oh, cette odeur était tellement forte, tellement positive pour moi. Je n'ai eu qu'une idée, c'était de devenir cavalier. Et effectivement, j'ai gagné tous les concours pendant 5 ans.
C'est intéressant parce que là vous parlez d'une espèce d'imprégnation, on va dire, primitive comme ça, avec cette odeur. C'est un sens qui vous est extrêmement cher. C'est-à-dire
que
des premières choses que vous faites, c'est de renifler les lieux, votre forêt à côté.
Vous sentez un peu la fumée là ?
Oui.
Ça c'est quelque chose d'extraordinaire.
Il y a une grande ferme qui se meurt au cœur de mon pays. La banque a saisi la maison, toutes les terres, la vie. Il y a comme un trou béant dans mon cœur et c'est comme un feu mort. Il y a un trou dans mon ciel, là où vivait Dieu.
Je voulais vous dire aussi à propos du Tarn, je crois qu'il vous est cher, à côté de Sorèze, il y avait Dourgne, et à Dourgne, il y a Encalcate.
Oui. L'abbaye d'Encalcate.
Et imaginez l'émotion pour un petit garçon, mes frères et moi, on était passionnés de musique classique, et nous avons été assistés à des offices à Encalcate, et on entendait chanter le grégorien. Quelle merveille, quoi. C'est un endroit magnifique, ce sont les bénédictins.
Oui.
Bon, j'ai reçu donc une culture chrétienne dont je suis très attaché, mais je ne suis pas très catholique. Je ne suis pas d'abord pratiquant.
Non, mais vous vivez votre foi de manière personnelle.
Voilà, voilà. Je dépouille totalement aussi bien le judaïsme que l'islam et le catholicisme de tout ce qui est culturel. Je suis cultuel, si vous voulez. Pour moi, croire, c'est quelque chose d'intérieur. Mais ce n'est pas le fait de manger du cochon ou pas manger du cochon, de s'habiller comme ça ou comme ça, comme ça. Tout ça, c'est faux. C'est un mensonge. Et je ne crois pas aux guerres de religion. Je ne crois qu'aux guerres économiques maquillées en guerre de religion.
Il s'appelait Stubol. C'était un cheval blanc. Il était mon idole.
Quelques mots quand même sur Stubol, parce que vous avez évidemment les chevaux, et puis cette histoire-là que vous chantez quand même toujours a été, vous le savez, terrifiant. On a tous pleuré en écoutant Stubol au Grand Prix de Saint-Jean, qui se casse la figure la haie, et puis qui est après transformé en steak haché. D'ailleurs, effectivement, moi je ne mange plus de viande de cheval depuis. Quoi.
Ah oui, bien sûr, ça c'est sûr. Voilà. Oui, bah, Stubol, c'est toutes les chansons que j'ai, que ce soit Céline, Stubol, Adieu Monsieur le Professeur, tout ça. Le petit Améry, ce sont quand même... moi, je m'inspire un petit peu de mon maître. Enfin, j'ai deux grands maîtres. C'est Jean de La Fontaine et Georges Brassens. Qui sont pour moi deux gigantesques poètes. Brassens, pour moi, est un poète plus important que Aragon. Ben, on réglera ça après. Voilà. Parce que ce qu'il écrit, c'est de l'humanisme vrai. Et moi, dans Stubol, c'est pas uniquement la mort d'un cheval. C'est, premièrement, un petit garçon qui découvre que son père... est fragile et sensible. Ce qui sous-entend que jusqu'à ce jour-là, il dit pour la première fois, je l'ai vu pleurer. Donc ça veut dire qu'il ne savait pas qu'un père pouvait pleurer. Deuxième chose, c'est l'histoire d'un homme qui lutte contre l'adversité. C'est un agriculteur qui ne s'en sort pas. Et quand il a un tout petit peu d'argent, sa femme lui dit d'aller au marché pour acheter un petit peu de tissu pour faire des pantalons aux gosses, et puis etc. Peut-être un chauffe-eau. Ben, il revient avec un cheval. Donc c'est un rêve. C'est une utopie. Mais... une utopie d'une grande beauté, d'une grande générosité. Donc, en fait, Stubol, c'est comme le petit âne gris, c'est une fable. Le petit âne gris, c'est pas l'histoire d'un âne. C'est l'histoire de tous ces gens qui travaillent dans l'ombre pour que d'autres soient dans la lumière. Donc, quand je me suis fait traiter de simpliste toute ma vie, ça m'a fait un peu de peine parce que je pensais que je cherchais à être simple, mais de là à passer pour un imbécile...
Vous avez vu le succès. À la limite, vous en foutez. Quoi.
Oui, le succès m'a...
Ah, c'est incroyable.
Mais je veux dire que derrière toutes ces chansons apparemment simples, il y a toujours un message humaniste. Oui. Toujours, toujours.
How many roads must a man walk down before you can call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?
Chez Dylan aussi, influence de la nature, de l'écologie, quelques mots quand même.
Dylan, c'est une sorte de génie, mais le point que nous avons de commun, c'est que lui, il a puisé toute son énergie, toute sa force et son inspiration dans la tradition.
The end
answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Qu'il a su, comment dirais-je, digérer et redonner à sa façon, parce que Dylan ne chante pas comme un noir. Il n'imite pas les bluesmen, comme les Stones font par exemple. Il est juif d'origine polonaise, russo-polonaise, mais il ne fait pas de la musique russo-polonaise. Mm-hmm. Il a écrit des chansons où il avait des sortes d'engagements qu'on a pu penser être politiques, jusqu'au jour où on a découvert que finalement il était beaucoup plus prudent quand il a parlé. La paix au Vietnam, tout le monde est pour la paix. Mais quand il a vu les Boat People débarquer quelques années après, et la situation de la Corée du Nord, il a fait des chansons où il exprimait ses doutes. Et certains de ses amis l'ont lâché en disant qu'il était un traître.
Et dans le vent.
Qu'est-ce qui vous fait avancer toujours, Hugo Frey ? Parce que là, on vous sent quand même bien serein. Alors, vous avez besoin de vos coins de nature, vous avez besoin de silence, de rencontrer du monde. Vous êtes à la fois, je dirais, un rat des champs et un rat des villes, quoi. Il vous faut un peu les deux.
Si j'avais vécu sous un régime totalitaire du type URSS, qu'on m'avait dit, vous devez choisir entre la chanson et l'agriculture, vous ne pouvez pas cumuler les deux, j'aurais dit l'agriculture.
Oui.
Sans hésiter, parce que sur mon tracteur, je prends un immense plaisir dans mes champs. Et puis le soir, si j'ai envie de jouer de la guitare, je peux jouer de la guitare. Maintenant, évidemment...
On n'est pas dans un régime totalitaire, c'est bien, quoi.
Voilà, ouais. Donc je peux faire les deux. Mais c'est vrai que chanter, c'est pas un métier. Chanter, c'est un plaisir. La mode, en ce moment, c'est la retraite. Mais un artiste ne peut pas prendre sa retraite, quoi. c'est une contradiction.
Hugo Frey, si vous étiez une odeur.
Une odeur.
Plusieurs, allez.
Plusieurs. Ben, quand même, la rose. La rose rose, parfumée. Ou la pivoine, parce que ça me rappelle Sorez. Alors, voilà. Vous me demandez. Mais inversement, je pourrais dire aussi, en complément, l'odeur d'une écurie de chevaux.
Si vous étiez une couleur, ce serait quoi ?
Oh, moi, je pense que ça serait... Je suis fasciné par le rouge.
Alors, si vous étiez une fleur, peut-être le coquelicot, non ?
Ah oui, le coquelicot, oui. Le pavot.
Oui, bah, c'est la même famille.
Oui, c'est le roi des coquelicots, quoi.
Oui, c'est ça.
Mais le pavot, en plus de ça, c'est l'opium.
Eh.
Je ne fume pas, hein, je vous dis tout de suite.
Non,
mais il y a derrière le pavot, il y a quand même une espèce de... Ah.
Si vous étiez un arbre...
Alors ça c'est délicat, le chêne c'est magnifique, mais les oliviers sont tellement beaux aussi. Un olivier c'est tellement beau. Peut-être un olivier.
Si vous étiez un légume.
Ah légume. Comment répondre à ça ? Il y a un légume qui est charmant et qui est rare. C'est ce qu'on appelait le poireau de vigne. Mais je crois que mon grand-père, dans le Lot-et-Garonne, avait des fermes où on produisait, notamment on faisait du tabac, le tabac.
Oui.
Et puis il y avait des pêches, des prunes, et puis des tomates, les marmandes. Et moi je me souviens de ces petits poireaux, très fins.
Pommes de terre tranquille aussi.
La pomme de terre, c'est monstrueusement génial, quoi. Les pommes de terre, qu'elles soient frites, en salade, avec des oignons, qu'elles soient... Moi, je crois qu'il y a, il y a des, ce qu'on appelait, c'est un mot que j'aimais pas, mais pour les chansons, on disait un tube, c'est-à-dire un grand succès. Il y a dans la nature des choses qui ont plus de succès.
Oui.
Vous avez des, dans la musique classique, vous avez des tubes.
Oui.
C'est même un peu agaçant.
Alors dans la nature, c'est quoi les tubes ?
Oh, ben, vous avez le chêne, c'est un tube.
C'est vrai.
C'est vraiment un arbre qui est formidable.
Oui,
tout le monde le cite. Quoi.
Exact.
Il est costaud, c'est une belle nature de bois pour faire des parquets, pour faire des tas de choses, pour faire des poutres.
Bon, la rose, c'est un tube aussi.
La rose, c'est un tube.
Viens, petit, on va s'aimer au bord du Rhin. Il est si doux, le petit vin, dès le matin, dans les jardins, sous les tonnelles, à Mayence, sur le Rhin. Viens, je vais t'emmener au fil de l'eau, nous embarquerons sur un bateau.
Si vous étiez une rivière, tenez, si vous étiez une rivière.
Le Lot. Et alors nous, avec mon frère, on allait à Aiguillon, on sortait nos chemises et nos petits shorts à l'époque, on était juste en slip, on attachait ça sur la tête et on descendait en nageant d'Aiguillon jusqu'à Nicole en se laissant porter par le courant du Lot et après par la Garonne.
À quoi ça sert de chercher à comprendre pourquoi on dit ce qu'on dit? À quoi ça sert de chercher à comprendre quand c'est fini, c'est fini? Quand le soleil se lèvera demain, je serai déjà loin, très loin. Il faut se quitter en chemin.
La question pourquoi ou comment ?
Tout est bien.
Finalement, les comment, tout le temps, on va arriver à répondre à comment.
Oui.
Et puis, mais ce que c'est le fond, c'est pourquoi.
Oui.
Le désir de répondre à la question pourquoi, comment c'est possible que tout ça existe ? On n'a pas de réponse. Comme on ne peut pas accepter de ne pas avoir de réponse, ben on dit il y a un esprit supérieur, alors on peut l'appeler comme on veut, les uns vont appeler Dieu, etc. Alors au moment où je parle de Dieu, je ne sais pas quelle forme il a, mais moi je peux vous dire que sur mon appareil photo qui est ici, je vais l'allumer, vous allez voir, voilà,
on va voir Dieu.
Lecture, alors ici on va le grossir, voilà, ici, là,
là,
et mangeant ces petits, c'est devant ma porte, voilà ce qu'il y a. C'est-à-dire un chevreuil en train de manger tranquillement devant ma cuisine.
Oui.
Tu vois ? On dirait un lama.
Oui.
Magnifique. Alors, voilà, il est venu ici parce que je pense qu'en bordure, il trouve des pousses plus fraîches. Peut-être que.
Quelle heure il était, là hein, quand
je sais pas.
Le matin ou
oui, à cette heure-ci, hein, le matin. Bon. Le matin, c'était le matin. Regarde comme il est.
Ah oui, oula. Il y a du monde sur votre route, là, de temps en temps.
Oui,
là.
Alors, là où il y a j'ai photographié le chevreuil, jadis, pas parce que maintenant, ils ne viennent plus, et j'avais mes renards qui venaient tous les soirs à 10h30. Mmh. Il y avait toujours un des quatre renards qui venait s'asseoir ici, là, devant la cuisine, pour me regarder. Je suis persuadé que, pour me dire, c'est l'heure. Hein, c'est l'heure. Et avec un regard qui ne laissait pas de doute, il fallait apporter à manger. Je suis certain que c'était une renarde.
D'accord.
Pour être aussi intelligente que ça, c'est forcément une femelle. Et alors, je leur donnais à manger ici. Et tout se passait très bien. Et puis, quand je suis en tournée, ma fille, elle fait, c'est une femme, elle aussi. Elle dit, je ne veux pas qu'on donne à manger sur le trottoir, parce qu'ils risquent de se faire écraser. Alors, elle leur donne à manger dans le bois, donc on ne les voit plus. Alors, avant, c'était la grande fête, mes amis, quand ils venaient dîner, à 10h30, je disais, parce que attendez,
on va au renard, hein. Attention.
On allait voir les renards, on se pétait dans la cuisine, et puis on voyait les renards.
Bon, oui, c'est aussi bien que la télé,
voilà.
Hein, bien sûr.
Voilà.
belle. Te voilà bientôt demoiselle. Et en te regardant, je vois ta maman. Il faut ranger ta poupée bien gentiment au fond du grenier. Quand nous sortons tous les deux, voilà bientôt demoiselle, et tu vas maintenant sur le chemin des grands. Il faut ranger ta poupée bien gentiment au fond du grenier. Je sais que tu l'aimais.
Hop. Ah. Ah, effectivement, immersion
c'est
dans
le sous-bois là, extraordinaire.
Là, hein. C'est le sous-bois. Qu'est-ce qu'elle vous inspire toutes ces formes là? Bah, avant qu'on a ces arbres qui vont gratter le ciel le plus haut possible pour capter la lumière, puis on a ceux qui sont à moitié
voilà,
couchés,
qui sont tombés au moment de la grande tempête. 99, la grande tempête. Ouais. Alors ils ont été plus ou moins débarrassés, mais. Donc c'est un sous-bois, un vrai sous-bois, où les gens ne se promènent pas parce qu'on en prend plein la figure. Mais tout autour de moi, et nous sommes à quelques
encablures,
à une minute du grand haras de Jardy, qui est le plus grand club hippique de France.
Qu'est-ce que vous apportent les chevaux? Pourquoi vous avez eu, au-delà de l'odeur au départ de l'écurie, mais... quelle relation vous avez avec ce cheval?
Alors, le cheval, c'est le responsable du monde technologique. Oui. L'espèce d'homme singe qui va recueillir un petit poulain dont la mère a dû être tuée et qui va tout d'un coup l'élever, puis un beau jour le chevaucher, devient un homme, c'est-à-dire le centaure, celui qui va dominer le monde. Tout le monde sait que la conquête de l'Amérique du Sud auprès des Indiens s'est fait parce qu'ils ont vu arriver un surhomme, c'est-à-dire qu'il avait quatre pattes et deux têtes. Et incontestablement, à partir de là, même si ça s'étale sur des siècles et des siècles, nous sommes les enfants de ce surhomme. Et ce surhomme, je vous le garantis, là, je ne serai malheureusement pas là pour le voir, mais il ira sur Vénus. Plus écologiste que moi, il n'y a pas. Mais je considère que le progrès, c'est purement technologique, mais il faut le contrôler et le mettre au service de l'homme. Voilà.
Hugo Frey, on va se quitter. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter?
Je touche du bois, là, la santé, c'est vraiment la base de tout, parce qu'il s'avère que j'étais gaucher, j'ai tout fait à l'envers dans ma vie. Et donc, il paraît que les gauchers sont souvent tardifs.
Ça va,
dans leur réalisation. Ouais, et d'accord. Donc j'ai beaucoup de choses à faire encore.
Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci Denis.
Balade, respiration avec Hugo Frey. Grand merci pour vos courriels là, qui sont en train de tomber. On dirait que ça vous a fait du bien d'écouter Hugo Frey. Et c'était un petit peu le but donc avec Fabrice Laigle qui a formidablement réalisé donc cette séquence. Alors on a décidé de pas vous passer quand même jour de Noël un extrait de Céline. Vous savez cette pauvre fille qui se sacrifie pour ses frères et sœurs, qui a toujours de beaux yeux et qui aurait pu rendre un homme heureux. Non, ça c'était trop triste. Le petit âne gris. Alors là on a hésité, mais honnête et courageux. Mais on s'est dit non, on va pas lui couper les oreilles. On va pas en passer 1 minute 15. Donc vous la chanterez peut-être ce soir en entier avec vos enfants. Et ce sera, à mon avis, beaucoup mieux. Et puis, donc, il y a cet album hein, qu'il a sorti il y a déjà quelques temps, Hugo Frey, New Yorker, donc balade au pays de Bob Dylan. Merci à lui. On a failli avoir une belle photo là sur le site, mais un peu coupée. On ne sait pas ce que ça a fait, l'informatique, mais enfin, on le voit. Mais je pense que lundi sera réglé. Ce sera réglé. Puis là vous aurez Hugo Frey au milieu de ces roses. Qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste un petit cœur de nature dans quelques instants avec une revue tout à fait formidable. En attendant, musique. Thank you.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Pas belle cette programmation musicale hein, de Jean-Baptiste Audibert qui enrobe cette émission avec une couleur. On a eu Memphis Tennessee de Souchon, les Turtles et la Caravan Palace. 12 juin 3049, bah oui c'est la fin d'année donc on se projette, c'est comme ça. Et alors j'ai sous les yeux ce cœur de nature en France. Qu'est-ce que c'est? Bah, d'abord c'est une publication superbe de nos amis et partenaires de Terre Sauvage qui font depuis des années, on le sait, un boulot énorme en direction donc de la nature. C'est une très belle réussite éditoriale qui nous emmène en Guyane, en mer d'Iroise, dans la forêt du Kertof qui se trouve dans les Vosges, autour d'Étretat. Et en ligne, Jean-Jacques Fresco, qui est le directeur de cette publication et de Terre Sauvage. Alors peut-être tout d'abord, un cœur de nature, qu'est-ce que c'est?
Alors, un cœur de nature, c'est un terme qu'on a inventé pour l'occasion, qui regroupe les espaces protégés à très forte protection, c'est-à-dire à ce qu'on appelle les espaces à protection réglementaire, c'est-à-dire les endroits où la nature est protégée, où on n'a pas le droit de faire n'importe quoi.
Alors ça s'appelle des réserves naturelles, des parcs.
Alors, voilà, des parcs naturels, des parcs nationaux plutôt, mm-hmm. des réserves naturelles, des territoires qui sont acquis par le Conservatoire du Littoral ou par l'Agence des aires marines protégées, ou bien dans les forêts gérées par l'Office national des forêts, il y a des réserves biologiques. Voilà, c'est tout ça des cœurs de nature. C'est des endroits où la nature est fortement protégée pour pouvoir régénérer une biodiversité qui peut ensuite essaimer dans la nature ordinaire, on va dire, qui entoure ces cœurs de nature.
Et vous avez voulu, en fait, je pense, nous envoyer du beau. Parce que d'abord, un, ça fait du bien, et puis ça sensibilise peut-être les gens différemment que les différents coups de cœur que l'on peut donner les uns les autres.
L'un des, des parrains de ce projet, qui est le directeur de réserve naturelle de France, Jean-Philippe Grillet, a coutume de dire « la beauté sauvera le monde ». Et effectivement, le pari qu'on a fait, c'est de dire « montrons que la nature est belle, montrons qu'elle est magnifique, montrons qu'il y a des professionnels, des gens qui s'attachent, dont la fonction au quotidien est de la maintenir belle, montrons ça et voilà qui donnera envie encore plus de la protéger dans les cœurs de nature, mais aussi à l'extérieur. Voilà, c'est ça l'idée, effectivement. C'est plutôt que de dire tout fout le camp une fois de plus, ce qui est, alors il faut le dire aussi, hein, parce que c'est vrai aussi.
Ah oui.
Montrons plutôt ce qu'il y a à protéger, ce qu'il y a à préserver, ce qu'il y a de magnifique, ce qu'il y a de régénérant pour l'homme, ce qu'il y a d'enthousiasmant, plutôt que de montrer ce qu'il y a ou de redire ces merveilles-là sont extrêmement menacées. On le sait qu'elles sont menacées, mais donnons-nous envie, j'ai envie de dire, de les préserver, et c'est ça qu'ont fait les photographes de CIPA, qui sont non pas des photographes naturalistes, mais des photoreporters, des photojournalistes, des gens dont le quotidien est d'aller couvrir la grande actualité, les conflits, les guerres, l'actualité politique, l'actualité sociale, voilà. Et c'est leur regard à eux qu'on a eu envie d'aller envoyer sur ces cœurs de nature, et ils nous rapportent leur regard de reporters qui savent narrer, qui savent raconter les histoires de ces territoires et des gens qui les protègent. Parce qu'encore une fois, s'il s'agit de territoires protégés, ben ils ne se protègent pas tout seuls. C'est un travail, c'est un métier, c'est des métiers. Et il y a énormément de gestionnaires de réserves naturelles, de gardes des parcs, de gardes du conservatoire du littoral, qui au quotidien travaillent à maintenir belle cette nature et cette biodiversité.
Alors parmi ces lieux, il y a la Guyane, il y a une forêt qui est celle du Kertof qui se trouve dans les Vosges. On va aller aussi autour d'Étretat, en mer d'Iroise. J'aimerais qu'on donne peut-être un petit focus sur le Caussoul de Croc, c'est-à-dire en fait ce lieu vraiment avec une tradition pastorale qui remonte à plus de 6000 ans.
C'est un territoire où la nature est pas luxuriante, elle est très minérale, les herbes sont très râpées, la biodiversité y est extrêmement présente et extrêmement discrète. Encore une fois, c'est un territoire qui a été façonné par le pastoralisme, par le mouton, par le fait que, là, effectivement, on est en Provence, évidemment, dans un terrain où tout est soumis au caprice de l'eau. Il faut aller trouver l'eau, il faut aller trouver l'herbe qui est irriguée, naturellement. Ce territoire est façonné par les parcours, par les passages des troupeaux et par les lieux où l'homme a jugé bon d'aller mener la bête. Et ça, c'est effectivement très intéressant parce que c'est pas une nature, on peut pas dire que c'est une nature sauvage, c'est une nature extrêmement façonnée par l'homme et façonnée par, encore une fois, l'alliance de l'homme et de l'animal.
Jean-Jacques Fresco, si on est à Paris, on peut voir ces photos ?
Alors, on peut voir ces photos, on pouvait voir l'ensemble du territoire français jusqu'au début de ce mois, et puis depuis une dizaine de jours, on peut voir uniquement des images des Outre-mer, des territoires protégés des Outre-mer, ce qui est une façon pour nous et pour tous les acteurs de la protection de la nature de clôturer l'année des Outre-mer.
Eh bien, merci à vous Jean-Jacques Fresco. Ça se passe sur les grilles du Sénat au jardin du Luxembourg, hein, donc cette fameuse exposition. Et puis donc vraiment, je vous le rappelle, hein, Cœur de nature en France, vraiment édition prestige, plus de 240 pages, édité par nos amis de Terre Sauvage. Merci à Nicolas Slimani, à Michel Thomas, à Stéphane Combe, à Fabrice Lègle qui a réalisé cette émission, à Anne Gouzon qui a nourri les sites de CO2 Mon Amour. Et comme on ne s'en lasse pas, allez, une petite bouffée.